prends Adam Arichon, avant la faute, il avait la Torah qui lui venait de son haut niveau. Il est quand même directement créé par Hachem, évidemment, et il avait la Torah. Il était dans le Gan Eden. A priori, c'était une situation de Torah. Il était dans un monde où la Torah allait de soi, en quelque sorte. On trouve même qu'Avraham Adam a approché un corban. Et il avait des mitzvot, assez des mitzvot lotassé. On dit que quand Hachem a mis Adam dans le Gan Eden, le Ovdo ou le Shomro, pour le travailler et pour le garder, travailler ses mitzvot assez et garder ses mitzvot lotassé. Donc il avait toutes les mitzvot assez, toutes les mitzvot lotassé. Et que ce n'est qu'après la faute que on a eu besoin d'un don de la Torah différent. Il fallait pour la construction de ce monde que la faute d'Adam avait détruit, il fallait une nouvelle Torah en quelque sorte. Or, a priori, ça, c'est faux. Alors, le Rav Volbe, il ramène ici un piyout qui a été composé pour Shavuot. Le piyout, c'est un poème qui a été composé en l'honneur de Shavuot. Dans ce poème-là, il dit pas par qui il est composé. Dans ce poème, qui est construit sur un chazal, on va s'occuper du chazal en question, chazal dit comme ça. Akadosh Baruch Hu a montré la Torah, exactement, il a montré à la Torah, il a montré tous les tzadikim, mais Adam jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il a présenté à la Torah, il regarde,
Entre Adam et Moshe Rabbeinu.
entre Adam et Moshe Rabbeinu. Et la Torah, elle a trouvé à redire à chacun d'entre eux. Elle n'a pas été d'accord d'être donnée à aucun d'entre eux, sauf à Moshe Rabbeinu. Et le Chazal disent, il y a un machal, proposer un machal. L'Adam she'aitalo bat na'a ve ohava admeot. Un homme, il avait une fille, une fille belle, il aimait beaucoup. Et a priori, il ne voulait la donner en mariage à personne, par amour. Un mot bien compris, quoi. C'est-à-dire, en fait, sauf si elle dit je veux cette personne, alors il la donnera. Donc, tous les gens qui venaient essayer d'obtenir la main de cette jeune fille, elle leur trouvait des défauts. Jusqu'à ce que vienne celui qu'elle a désiré. De la même manière, la Torah, elle a disqualifié tous les prétendants jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu vienne et qu'elle le désire. On voit ici que Adam Harishon, il n'avait pas la Torah. Verak, Il m'a omède de mitzvato. S'il avait fait ce qui lui incombait, c'est-à-dire de s'occuper, de travailler le Gan Eden, travailler ce fameux jardin et de le garder, il aurait mérité de la recevoir, la Torah. Là, du coup, il faut comprendre. Pourquoi Adam Arishon, avant la faute, la Torah a trouvé aussi les défauts? Mais en fait, on peut dire que Adam Arishon, qu'est-ce que la Torah aurait pu lui, avant la faute, qu'est-ce que la Torah aurait pu lui apporter? Qui n'avait pas déjà, en quelque sorte. La perfection du corps et de sa neshama était là. Le Ruach l'inspiration, la dvekout, etc. Tout ça, hein, ça était là. Qu'est-ce que la Torah peut bien apporter à Adam Arishon avant la faute? Alors, il y a deux chidushim. Premièrement, c'est jusqu'où peut monter ce qu'on appelle Tselem Elohim sans la Torah. Pas Adam Arishon, il est Tselem Elohim, il est à l'image, bien à l'image d'Hachem. Il n'a pas la Torah, et pourtant il est à un degré absolument faramineux, dont on se demande même. Qu'est-ce que la Torah pourrait bien lui apporter? Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est que le. Qu'est-ce que c'est que la Torah? Si elle peut, visiblement, puisqu'on l'a proposé à Adam, puisqu'elle peut lui apporter quelque chose. Donc la Torah, elle viendrait apporter quelque chose de plus à celui qui a déjà tout. Moi, je veux dire, par tout, j'entends qu'on peut imaginer de qualité. Qu'est-ce que la Torah donne, amène comme qualité à quelqu'un qui a, semble-t-il, toutes les qualités déjà? Ces deux éléments un peu, pas complètement contradictoires, mais d'un côté, on se demande comment, qu'est-ce qu'elle pourrait lui apporter? Mais d'un autre côté, on dit, mais il est arrivé sans la Torah à ce niveau-là. La grandeur de celui qui est B'Tselem Elohim.
Et ça, c'est conclu de ce poème?
Non, c'est du Chazal en question qui est construit là sur ce poème, mais, donc c'est qui est construit sur ce Chazal. C'est ce que dit le Chazal dit.
Adam, il est pas, il a été comme ça, il a reçu ça.
Oui, d'accord.
Donc, c'est pas.
Mais elle lui a trouvé des défauts, puisqu'elle n'a pas accepté que la Torah lui soit donnée à lui non plus, Adam. La Torah, elle trouve à redire à Adam Arishon.
Mais comme dites, il avait tout.
Pardon?
Il avait tout, Adam, c'est ça?
Il avait visiblement tout, et
Sans.
néanmoins, on lui propose la Torah. Ça veut dire que la Torah pourrait quand même lui apporter, nous on ne sait pas quoi, mais
Oui.
elle pourrait lui apporter, mais en plus la Torah, elle ne le trouve pas parfait. Enfin, elle ne le trouve pas suffisamment intéressant pour être d'accord de lui être donné, comme
C'est
si.
un tout de l'homme et un tout de la Torah qui n'est pas le même.
Oui. La grandeur de celui qui est B'Tselem Elohim, dans sa capacité de comprendre les choses et dans son action aussi. Adam Arishon, à quoi est-ce qu'il accède? Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il va nommer toutes les créatures. C'est-à-dire que Il a compris, il a reconnu dans toutes les créatures avec quelles. Nous, on pense que le monde, il a été créé avec des lettres. Donc, Adam Harishon, il savait exactement avec quelles lettres chaque chose a été créée. Donc, avec ces lettres-là, il a composé un mot qui était le nom de la chose en question. C'est pas pour rien que cette tâche lui a été donnée à lui et pas au malachim. Pourquoi est-ce que c'est pas les anges qui étaient en charge de faire ce travail? Parce que Adam, parce qu'il est Tselem Elohim, il contient toutes les forces. Parce que Elohim, c'est ça. Elohim, c'est celui qui contient toutes les forces. Pardon, et il est la mesure de toutes les forces qui existent dans le monde. Ça, c'est pour ça ce qu'on appelle la Hasaga, ce à quoi il accède, il peut comprendre. La Kdusha, la sainteté d'Adam. Il y a un midrash qui dit que les anges, ils se sont trompés. Ils ont voulu dire Shira devant Adam. Ça veut dire que les anges n'ont pas vu ils ont pas été sensibles à la différence de Kdusha. Du Créateur. Quand on parle du Créateur, c'est pas Hachem pour lui-même, hein. C'est Hachem quand il décide de créer. Donc il y a, si vous voulez, c'est comme si sur Hachem pour lui-même, on peut rien dire du tout, on dira rien. Encore une fois, ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas, tous ces mots-là sont inadéquats pour dire, pour parler d'Hachem. Maintenant, Hachem a décidé un jour. Comme ça que nous, on décrit la chose. Il a décidé de créer. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il avait mis un habit de créateur. Il est le Boré Olam. Sur le Boré Olam, on peut dire certaines choses. C'est-à-dire, ça veut dire, il se donne à voir comme le créateur. Ça veut dire, j'ai accepté de me donner à voir de cette manière-là. Mais la façon dont vous allez me voir ne vous permet pas d'inférer quoi que ce soit sur ce que je suis en réalité. C'est comme si vous aviez décidé de paraître dans une société où vous n'avez pas l'habitude d'aller et vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, alors vous allez vous déguiser, d'accord? Et vous allez veiller à ce que de votre déguisement ne puisse pas inférer quoi que ce soit de ce que vous êtes. Bon, parce que aujourd'hui on dit l'habit ne fait pas le moine, mais il ne fait peut-être pas le moine, mais il nous dit quand même quelque chose sur la personne qui porte cet habit-là. Elle a choisi de s'habiller de cette manière-là, la personne en question. Elle a choisi de se coiffer comme ça. Elle a choisi de se maquiller comme ça. Elle a choisi de mettre telle chaussure et pas telle autre, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui nous dit quelque chose. Ce sont des éléments qui nous permettent de dire quelque chose de la personne qui s'est déguisée de la sorte. Il faut imaginer que vous ayez trouvé un déguisement qui ne vous convient, qui ne vous correspond absolument pas, ce qui fait qu'on ne peut pas du tout remonter de ce qu'on voit à ce que vous êtes. Il faudrait imaginer que Vous vous laissiez déguiser par quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas, etc., qui ne va pas essayer de. Qui va exprimer son désir ou son. Etc., en vous déguisant de telle ou telle manière, de telle sorte que, bon, qu'on pourra déduire si c'est quelque chose éventuellement sur la décoratrice qui vous a déguisé de la sorte, d'accord, mais pas sur vous. Donc Hachem, en tant que Boré Olam, il se montre en tant que Boré Olam. Et ça, là-dessus, on peut dire quelque chose. Et il se montre les différents noms divins, par exemple. Pourquoi si Hachem est un, oui, pourquoi il a plusieurs noms? C'est pour, c'est quoi? Il a plusieurs passeports pour franchir les frontières? C'est quoi? Les noms, quand ils sont essentiels, ils reflètent certains pans de la personnalité de chacun. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a plusieurs noms, etc. Il a des noms qui reflètent certains éléments que la Torah a voulu nous faire connaître de la personnalité de Moshe. Donc, les noms divins, c'est un peu la même chose. Il y a en plus une hiérarchie des noms divins. C'est bien ce qu'Hachem a dit à Moshe quand Moshe lui a demandé quel est ton nom, il a dit j'ai pas de nom. L'ange des sables, quand Yaakov lui demande quel est son nom, il dit j'ai pas de nom. Pas de nom. Oui.
On peut rien inférer à partir du statut de créateur d'Hachem,
À partir des.
à partir de ce qu'Hachem nous laisse voir.
Rien du tout. On peut rien sur HM, on peut rien inférer du tout.
Mais par rapport à l'image que vous avez prise sur le déguisement, on ne peut pas imaginer qu'Hachem soit complètement modifié dans la manifestation de cette posture de créateur.
Voilà. Donc, quand il est créateur, c'est que c'est un, si vous voulez, c'est même difficile de dire que. Il a voulu créer parce que quelque part on lui attribuera une certaine volonté. On ne sait pas ce que ça veut dire la volonté d'Hachem. Tous ces mots-là sont. Il n'y a pas de mots. Les mots sont faits pour communiquer et pour communiquer dans ce monde-ci avec les éléments de ce monde-ci. Certains veulent dire que la preuve de l'existence de Dieu, c'est l'existence du mot Dieu. Mais c'est la preuve d'un Dieu qui a accepté de d'être dans le monde, mais c'est pas du tout la preuve de l'existence. C'est pas dans ce monde.
Mais alors ça veut dire du coup que c'est nous qui ne sommes pas en mesure de comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre cette
Non,
position.
il n'y a pas de lien, ça veut dire, Hachem a fait en sorte qu'il n'y ait pas de lien. C'est pas simplement notre incapacité à nous. Bon, c'est aussi comme ça. De facto, c'est comme ça. Parce que nous-mêmes, en tant que Boré Olam, qui est le côté où il se dévoile d'une certaine façon, on ne sait toujours pas comment il a créé le monde. On n'a pas d'informations sur la création du monde. On connaît quelque chose qui s'appelle Maaseh Bereshit, mais peut-être que c'est une erreur de d'appeler ça la création. C'est l'heure du commencement, mais. Bereshit, la dracha, elle est bishvil Israël, shenikraim Bereshit, ou bishvil Bikurim, shenikraim Bereshit, etc. C'est pas du tout au commencement. C'est bishvil quelque chose qui s'appelle Bereshit. De toute manière, bon, on va pas maintenant entrer là-dedans, mais dans le récit de la création, on parle de l'eau. Il n'y a nulle part une indication sur la création de l'eau. On doit le dire, c'est tout. Alors bien sûr, si l'eau veut dire la Torah, alors on sait qu'Akadosh Baroukh Hou il a écrit, il a créé la Torah avant le monde, et qu'il a regardé la Torah pour créer un monde qui soit adéquat à cette Torah. Bon, mais si vous dites qu'il faut lire de toute façon tout le texte avec d'une autre manière pour que le maïm soit du récit de Maaseh Bereshit soit la Torah, par exemple. la lumière n'est pas la lumière. Le soleil est créé plus tard. Cette lumière, elle a été mise de côté. C'est une lumière spirituelle. Donc, la Kdusha, elle est tellement énorme, en fait, que les Malachi Hasharet se sont trompés sur ce que c'est que Tselem Elohim, le problème de Vologine dans Nefesh HaChaim. Il dit que le nom Elohim, qu'est-ce qu'on est censé penser quand on dit Elohim? Alors, le tour, c'est un ouvrage à l'Afrique. C'est un ouvrage qui a été composé par un fils de Rabbeinu Asher, du Roche. Et cet ouvrage-là, il a entre autres été commenté par Rabbi Yosef Karo. Ce Rabbi Yosef Karo, il a aussi commenté le Yad Chazaka du Rambam. Et après, il a écrit le Shulchan Aruch. Alors, le tour apporte tous les enseignements de son père, son maître, et d'autres. Et c'est lui qui dit que Elohim, ça veut dire Baal HaKochot Kulam.
Je
me suis rappelé que c'est le maître
de toutes les forces.
Oui, mais le tour, il y a quelques siècles avant. Baal Kol HaKochot Kulam. Le mot Elohim, le nom Elohim, il a une version, il y a une lecture profane de Elohim, qui se dit Elohim, oui. Et par exemple, le mot Elohim, ça veut dire tribunal. Le mot Elohim, il désigne toute personne qui est importante. Et d'une certaine manière, toutes les forces sont des Elohim. Donc on comprend bien, toutes les forces sont des Elohim, il y a une hiérarchie des forces. Et tout en haut de cette hiérarchie des forces, mais de façon transcendante, vous avez ce que nous on appelle Elohim. C'est écrit aussi comme les Elohim, bon, mais nous, pour montrer qu'on parle, on ne parle pas d'une des occurrences, de nombreuses occurrences du mot Elohim profane, mais d'un nom divin. C'est un nom divin qui est dans la hiérarchie des noms divins, est en dessous du tétragramme. Le tétragramme, c'est le nom le plus élevé que nous ayons.
J'ai une question. Les idolâtres, ceux qui sont un peu développés, eux, en fait, ils disent n'importe quoi ou ils confondent des forces.
Ils ont décidé que les forces étaient autonomes.
Qui sont soumises à... Donc en fait,
c'est-à-dire, nous on dit que ces forces existent. C'est évident que le soleil joue un rôle fondamental pour nous humains. Bon, mais c'est pas lui le maître. Il décide pas de... Aujourd'hui je rayonne, demain je rayonne pas. Bon, mais effectivement, son rayonnement qui est gouverné par Elohim, mais c'est un Elohim, c'est sûr. D'accord ? Alors, il y a ceux qui adorent le soleil, parce que comme, aussi on peut penser, ils ont décidé d'adorer le soleil, c'est-à-dire au départ, c'est présenté, Rambam, il présente les choses en disant qu'au départ, les gens, ils voulaient remercier Hachem, mais comme on ne sait pas quoi faire par rapport à Hachem, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors on s'est dit, on va remercier le service des serviteurs, remercier le soleil, remercier, en sachant pertinemment que je suis en train de remercier le serviteur parce que je n'ai pas les moyens d'accéder au serviteur. À la limite, je peux lui envoyer, je peux m'imaginer de lui envoyer un sacrifice. Au départ, il savait très bien que c'était soumis. Mais avec ça a dévié normalement, parce que ça dévie automatiquement. On a fini par lui accorder, par le raccorder au soleil, comme à d'autres, une autonomie. Et du coup, puisqu'il est autonome, alors il faut arriver à être dans les bonnes grâces. Donc les Incas, par exemple, qui, je sais pas, toutes les années, sacrifiaient je sais pas combien de jeunes gens pour que le soleil accepte de se lever. C'est tout, c'est comme ça que c'est arrivé, mais au départ, je sais pas, c'était déjà chez les Incas, mais alors, au départ, en théorie, d'après Rambam, ils n'ont pas tout de suite commencé à leur donner de l'autonomie. C'est-à-dire que le Rambam, il ne décrit pas du tout l'humanité comme une humanité idolâtre, totalement idolâtre au départ, et qui va avancer. Il décrit les choses. Adam Arishon, il savait bien qu'Hachem l'avait créé. Donc c'est Adam Arishon qui lui, ensuite, il s'est éloigné et il a fauté. Et puis après, les générations qui viennent vont, se sont de plus en plus éloignées jusqu'à des situations inacceptables qui vont donner le Maboul, la tour de Babel, etc. C'est-à-dire on est à l'idolâtrie, puis ensuite il faut sortir de l'idolâtrie, mais quelque part, l'idolâtrie n'est pas première, en fait, d'après Rambam.
Comment est-ce que les anges ils ont pu se tromper?
Ils se sont trompés pas sur eux. Ils voulaient dire la Shira parce qu'ils ressentaient qu'il y avait de la Kdusha. La Kdusha que Adam Arishon rayonnait était un degré de Kdusha auquel les anges étaient sensibles, et c'était un degré tellement élevé que les anges n'ont pas été capables de faire la différence entre la Kdusha du Créateur et la Kdusha des créatures, les anges de service, c'est-à-dire les anges les plus hauts placés.
Parce qu'à ce moment-là, Adam Arishon, il a, en nommant les créatures, il a accompli un acte de création qui a donné une grandeur comparable à celle d'Hachem.
Non, c'est pas sûr que c'est pas parce qu'on a soi-même un degré de Kdusha qu'on est capable de donner. C'est pas, on peut peut-être seulement donner trois niveaux en dessous. Peut avoir un linge qui est mouillé, mais il n'est pas capable de mouiller autre chose. C'est pour ça que on dit jamais, on dit Tselem Elohim, mais on ne dit pas Tselem Shakai, Tselem Hashem, etc. Tselem Elohim. Parce que le Créateur, il a donné à Adam une maîtrise de toutes les créatures. Il lui a donné la possibilité de faire monter les créatures avec lui ou les faire descendre. Il y a une racha, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné aux hommes Veirdu Bidgat Hayam, qu'il a donné l'ordre aux hommes de dominer l'ensemble des poissons du monde. Les hommes dominent les poissons aussi. Mais le mot Veirdu, il veut dire dominer ici. Alors, Chazal disent, Zahu Rodim. Si les hommes se conduisent bien et s'ils le méritent, alors ils dominent. Sinon, ils ordinent, ils dégringolent. Donc, voilà. Donc, on en est où? On en est à ce que Adam, on a vu que Adam a riché, même avant la faute, il n'avait pas la Torah. Sa grandeur, c'était d'être Tselem Ça fait de lui quelqu'un d'extrêmement grand, mais il n'a pas la Torah. Et donc notre étonnement, il est double. Premièrement, comme on l'a dit, c'est tellement énorme d'être Betzelem Elohim que ça a permis à Adam d'être à ce niveau-là. Et deuxièmement, qu'à partir du moment où on constate cette hauteur d'Adam, alors notre étonnement, c'est il y a donc quelque chose que Adam n'a pas et que la Torah aurait pu, que la Torah pourrait lui donner. Donc notre question, c'est quoi exactement cette chose-là? C'est quoi ce qui manque à Adam, que la Torah pourrait lui donner. Le Nachash, quand il parle à la femme d'Adam pour la séduire, il dit, Kiyoda Elohim, Elohim sait, Ibayom, Achalchem mimenu. Il sait que le jour où vous mangerez de l'arbre dont il vous a interdit de manger des fruits, venifkechu, alors vos yeux se désireront, vitem ke Elohim, et vous serez comme Elohim, et vous allez connaître la différence, et vous allez connaître le bien et le mal. Et Rashi commence ce verset. Rashi dit, dans ses marquantes, le Nachash a dit, Ki yodea, il sait. Alors, Rashi dit, ce qu'il voulait dire par là, le Nachash, c'est Kol uman sone et bnei umnato. Et donc, Minaetz achal. Ou bara et haolam, item ke Elohim, yotzre qu'est-ce qu'il dit à la femme d'Adam? Il lui dit, tout artisan jalouse et déteste l'artisan concurrent. Et par conséquent, si vous mangez de lui, en fait, comment il est arrivé à connaître la différence entre le bien et le mal? Parce qu'il a mangé de cet arbre, du fruit de cet arbre. Donc il veut pas que vous mangiez parce qu'à ce moment-là, vous serez ses égaux. Et donc, de la même manière que lui, grâce à cela, il a créé des mondes, vous aussi, vous allez pouvoir créer des mondes. Donc, ce qu'il a proposé à la femme en question, c'est gigantesque. Il lui dit, tu sais, si tu manges ça, tu vas pouvoir créer des mondes. Comprend bien que le discours, il était ultra séduisant. Et le seul moyen de ne pas tomber dans le piège, c'était de se dire, si Hachem m'a dit de ne pas le faire, je ne le fais pas, point barre. Ce que dit Hachem, c'est le Hémet, c'est la vérité. Et donc, je ne le fais pas, point barre. Et le point barre, ça veut dire, on ne va pas commencer à dire oui, mais peut-être, rien du tout. Point barre. Donc, avec ça, il a séduit la femme. Ça veut dire que ça, hein, il le voulait, que ce soit Adam ou sa femme, ils sont en même temps, être créateur de monde. Et en, avec ça, si on est créateur de monde, on est Bnei Umanuto Shel HaKadosh Baruch Hu. On est des égaux d'HaKadosh Baruch Hu. On est les mêmes types d'artisans. Donc, Adam a été capable de nommer toutes les créatures. Sa sagesse, elle est plus grande que la sagesse des anges. Parce qu'il connaît l'esprit, la vie de chacune des créatures. Comment est-ce qu'elle a été créée? Par quelle lettre, quelle combinaison de lettres elle a été créée? Mais être capable soi-même de créer des mondes, ça, Adam ne le pouvait pas. On est obligé de dire qu'il ne le pouvait pas, parce que sinon, s'il le pouvait, elle l'aurait pu. Et donc, l'argument du Nahash, il serait tombé à l'eau. Il n'y a aucune séduction à lui dire, si tu fais ça, je peux déjà le faire, alors.
Pourquoi on dit que la sagesse était grande et on ne dirait pas que la sagesse était infinie?
Pardon, pardon?
On ne dirait pas que la sagesse d'Adam était infinie? Pourquoi elle est finie? Parce qu'il
n'y a rien encore. La question, je ne sais pas quelle est votre question, mais elle était, la réponse simple, c'est que Hachem l'a créé comme ça. Mais il y a une question qui est toujours. Comment est-ce que l'infini peut créer du fini? Si Hachem est infini, quel que soit le sens du mot infini, pourquoi tout ce qu'il crée n'est pas entaché d'infinitude, si on peut parler comme ça?
C'est ça.
C'est ça votre question. Bon, ça c'est la question, c'est aussi, c'est dit dans l'autre sens, comment le Tahor peut créer du Tamé? Comment Hachem qui est Tahor, il a pu créer des choses qui sont tmines. Bon, mais ça, c'est toujours la toute puissance d'Hachem. Il est omnipotent, il peut tout faire. Et tout est son contraire, parce que ça qui est très, très important, de pouvoir faire des choses contradictoires. Sans être, nous, on n'est pas capable de faire a priori. Des fois, on se demande si on n'est pas quand même capable de faire des choses contradictoires, mais normalement, quand on les décale. Oui.
Par rapport à quand on dit que l'homme, il vient compléter la création du monde.
Il vient quoi? Compléter?
La création du monde.
Oui.
Et là, en fait, on dit que Adam, il n'était pas capable de créer des mondes. Alors, j'arrive pas à faire le lien entre les deux. Parce qu'on dit que l'homme, il est.
Mais non, ça veut dire que il y a des imperfections qu'Hachem a laissées dans le monde pour que l'homme les rende par, enfin, les supprime, comme en tant qu'imperfection. Et probablement que ça voulait dire qu'il n'y a pas d'imperfection au niveau de, il manque des mondes qui ne sont pas créés. Parce que ça, il ne peut pas le faire. Mais peut-être que les mondes qui sont créés sont des mondes qui n'ont pas toute la lumière, toute l'énergie, etc. Et ça, l'homme peut le faire. Il peut lui donner plus d'énergie, plus de lumière, disons.
pourquoi c'était désirable pour Adam Arichon d'arriver à ce niveau, de pouvoir créer des mondes?
Probablement parce qu'il ne pouvait pas.
Et ça, c'est pas l'essence même de l'homme, justement.
En enfer.
C'est pas l'essence même de l'homme de toujours vouloir ce qu'il n'a pas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que puisqu'il ne l'a pas, alors ça devient désirable. Mais si vous voulez, pour qu'on puisse dire tu pourrais créer des mondes, je ne sais pas ce que ça veut dire créer des mondes, mais a priori, je ne sais pas comment vous réagiriez si on vous propose de créer des mondes. Premièrement, on peut imaginer que, par exemple, une femme ne va pas répondre de la même manière qu'un homme. Une femme, elle peut très bien dire, moi, je crée des mondes. Je mets au monde des enfants, c'est un monde. Les hommes, ils ne pourront pas le dire exactement de la même manière. Ils sont aussi partie prenante, mais c'est pas aussi visible, quoi, en tout cas. Donc peut-être que c'est pas quelque chose qu'on pourrait nous proposer, mais visiblement c'était pas ça, puisque y a une discussion entre Rachid et les autres commentateur, pour savoir si les enfants, Cain et Abel, sont nés avant ou après la faute. Donc, si on dit que les enfants sont nés avant la faute, alors Chava, enfin, ça s'appelle pas encore Chava, mais la femme d'Adam, elle sait qu'elle peut créer des mondes. Elle sait qu'elle a mis au monde des enfants.
C'est normalement. S'ils
Pardon?
sont nés pour la faute, ils sont nés normalement, ils sont nés.
Ouais, ils sont descendus du lit, ils sont nés. Et normalement, c'était la normale à ce moment-là,
Donc, si on parlait avant la faute, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une capacité de créer des mondes.
Non, mais de toute manière, la question, c'est au moment où il lui parle. Est-ce qu'elle a déjà mis... Je voulais dire que par rapport à ce que j'ai dit que... Si une femme peut dire, ben, moi, je crée des mondes, si c'est une réponse, alors ça dépend de si les enfants sont nés avant ou après. C'est marqué dans Pirkei Avot, Avivin Israël, Shenitan Lahem, Lichemda. Les bnei Israël sont très chers à Hachem. C'est pour ça qu'il leur a donné Kli Chemda, c'est-à-dire un instrument qui lui est très précieux. Riba Yetera, mais ils ont un amour encore plus grand. Nodat Lahem, pardon. Kli Chemda Shebo Nivra Olam. C'est pas simplement un Kli qu'Hachem aime, mais c'est le Kli qu'Hachem aime et avec lequel il a créé le monde. C'est énorme ce qui est écrit là. C'est pas une louange comme une autre qui est dite là. On est en train de définir quelque chose. Le clic qui est très précieux et que Hachem a donné à Israël, c'est évidemment la Torah. Donc, la Torah, Kdosha, Yamarchir Shebonivra Olam. La Torah, C'est l'instrument avec lequel Hachem a créé le monde. Shekshi nitna l'Israël arimitan lahem amarchir livro olamot. Donc quand Hachem leur donne la Torah, il leur donne bien un moyen, un cri avec lequel on crée des mondes.
Justement, pour l'homme, étudier la Torah, c'est une façon soit de créer, soit de découvrir l'œuvre des mondes.
C'est donc ça la Torah. Adam Arishon ripes et akli shebo nivra olam velo matzao ripes oto beetz hadat.
Mais on parle de Zamel, créer des mondes, c'est un effet secondaire, c'est le but recherché. C'est pas le but recherché d'avoir la Torah pour créer des mondes. Le but, c'est de parfaire l'homme, de parfaire le monde en soi, mais pas de créer des mondes. C'est un effet indirect.
Et qu'est-ce que ça veut dire, comme même quand vous dites parfaire l'homme? C'est peut-être créer des dimensions nouvelles dans l'homme, c'est-à-dire créer des mondes différents.
À l'intérieur
les mondes, c'est pas obligatoirement des mondes extérieurs complètement.
À l'intérieur de l'homme.
C'est vrai, ça peut être.
Mais Rav, alors, pour revenir sur la question de tout à l'heure,
pardon?
Pour revenir sur la question de tout à l'heure, on disait que l'homme, il parfait le monde. Là, ça revient à ça, ça veut dire. Mais cette perfection-là, elle n'est donnée qu'au peuple d'Israël, comme quand on dit qu'avec le Shabbat, quand on fait la Abdala. C'est la même chose?
L'homme. Adam Arishon, c'était un être parfait qui était. Il ensuite a été, c'est difficile de dire remplacé, mais le rôle que Adam devait jouer, il ne l'a pas joué, ce rôle a incombé à l'humanité tout entière. Et quand l'humanité tout entière s'est disqualifiée au moment de la tour de Babel, c'est Abraham qui a pris ça sur lui. Et dans les descendants d'Abraham, Hachem a dit qui béitra qui carré le chazara. C'est-à-dire ta descendance à toi, Abraham, ce ne sera pas Ishmaël, ce sera une partie d'Yitzhak. Donc c'est Yaakov. Et donc, comme on dit aujourd'hui, les Bnei Israël sont Adam. Ce n'est pas que les autres ne sont pas des êtres humains. Mais ils ont la fonction qui était celle d'Adam. Donc quand vous dites ça a été donné à Israël, oui, ça a été donné à Israël, mais avant la distinction, il n'y avait pas d'Israël, si on peut parler comme ça. C'est une suite de disqualifications qui a obligé, en quelque sorte, les choses se faire de cette manière-là. De la même manière que quand la Torah, quand Chazal nous décrive comment la Torah a été donnée au Bnei Israël, elle a été donnée au Bnei Israël par défaut, hein, parce que les autres ne l'ont pas voulu. Ah non? De nouveau? Mais elle se dédouble, elle entre, elle sort, elle entre. Boré ou la motte, créer des mondes, c'est Nicolas Dambou. אין לנו לחשוב כי זהו עניין שאין לנו כל מבוא ועסק כמו. Il ne faut pas penser que créer des mondes, c'est quelque chose qui nous est totalement étranger. Qui peut mettre que la dame au siècle des étamides. Chaque homme s'occupe de ça en permanence. Parce qu'on l'a mode chanchonim, Yeshna. Il y a des mondes complètement différents. Yeshéboné, au la mode chel dimayon. Il y a des gens qui construisent des mondes imaginaires. Il y a toute une littérature de mondes imaginaires. Tavot, Yotzri, Yotzrim, Shein Laem Kiyum Va'erech, des désirs, des yetzers qui n'ont absolument aucune durée, en fait, qui n'ont aucune valeur. Et essentiellement, on s'occupe la plupart du temps de toutes ces choses-là. Peut-être que ça, Adam Arishon, mais Adam Arishon, il savait le faire aussi, évidemment. Parce que nous sommes Yotzrei Olamot. Et là, chez Olamot, chez Yitzro, Ayush el Dimionot, Vetam Bachet. Torah écrit la Chemda, Chebo Borim Olamot Shel Mamash. C'est-à-dire, la Torah, c'est un moyen de construire des vrais mondes, en fait. Des mondes durables, des mondes réels. Donc, des réalités spirituelles qui sont éternelles. C'est ça la puissance des mitzvot. C'est ça tout le inyan de la Torah. Ce marchir-là, ce moyen-là, il a été donné à Israël, au clan Israël en tant que tel. Adam Arishon, il pouvait nommer. Il faut pour ça avoir un codex, il faut une inspiration. Il pouvait nommer toute la création. Mais créer les mondes, ça, il ne savait pas. Majgar, il donne ici un machal. On prend un grand expert en électricité. Il examine toute une installation d'électricité. Un réseau très complexe, avec des centaines de lampes, etc. Il connaît tout ça, il sait exactement quel fil correspond à quelle chose, etc. Mais il se trouve qu'il n'a pas accès à l'interrupteur principal. Et donc, il sait exactement tout ce qui se passe. Il ne peut pas allumer parce qu'il n'a pas accès à l'interrupteur principal. Là, l'Israël, on lui a donné la capacité, on lui a donné justement ce fameux ustensile, un instrument ou moyen avec lequel le monde a été créé.
Il s'est façonné, mais il n'a pas la matière pour façonner, l'énergie pour le façonner.
Qui?
Adam.
Oui. Bedin shel mata posek vekovea shanim. ותוקף יש מזה בכל העולמות. לבית דין דומבה, לבית דין ישראל, il décide, il tranche et il fixe des années. Il décide, cette année, on fait une année avec un mois de plus, une année avec 13 mois. Et ça, ça gouverne tout, 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 tout est chamboulé. Dans tous les mondes. Bon, c'est une nouvelle année, donc c'est, ou bien c'est pas une nouvelle année. Et Malachi Charet pose la question au Créateur, Matai Rosh Hashanah. Et Hachem répond, on va descendre voir ce que le Bedin a décidé. C'est eux qui décident. Bien sûr, ils ne décident que parce qu'Hachem a décidé de les laisser décider. Mais maintenant, c'est eux qui décident. C'est eux qui vont décider quand Hachem va juger le monde. C'est eux qui vont dire est-ce que ce sera Rosh Hashanah ou pas. Ça, c'est notre émouna. Nous, nous pensons, croyons à ça, si vous voulez. Chaque mitzvah, elle a la possibilité de bousculer des choses absolument énormes, de faire des changements radicaux dans tous les mondes. On n'a absolument aucune idée de cette grandeur-là. C'est quoi cette création? Hachem a donné au Beit Din Shel Mata un impact sur tous les mondes.
Quand on dit chaque mitzvah, c'est chaque mitzvah de l'homme, tu sais.
Mais ce n'est pas des mitzvahs des animaux. Hein.
Donc, on était avec le Bédine. Alors, je ne sais pas si c'est.
Donc là, en l'occurrence, c'est le Bédine qui fixe l'année. Donc. C'est vrai pour toutes les mitzvahs, mais en particulier, pour savoir si, c'est, si le nouveau mois est commencé, si la nouvelle année est commencée ou pas, il chamboule toute l'organisation. C'est le Bédine d'en bas, par exemple, qui décide.
Mais comme vous dites, chaque mitzvah, c'est en dehors de ce dont vous avez parlé avant, c'est-à-dire le. La décision de quand elle va être la nouvelle année, c'est chaque mitzvah lambda.
Toutes les mitzvot ont un impact, mais chaque mitzvah a son domaine d'application. La mitzvah de fixer le temps, elle incombe au tribunal de Yerushalayim, au Beit Din HaGadol de Yerushalayim. Il y a d'autres choses qui incombent à chacun d'entre nous.
Voilà, mais quand c'est à notre niveau, chacun d'entre nous, on bouscule, on fait aussi ces changements radicaux.
On peut faire des changements radicaux, bien sûr, dans le domaine qui nous est imparti, en quelque sorte. On a un domaine où les choses dépendent de nous, c'est-à-dire nous sommes en charge de régler tel ou tel problème. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est défaillant? Quelqu'un ne fait pas le travail. Donc, il faut imaginer que la répartition, elle n'est pas faite. Si vous ne laissez pas un pavage où il y a ce que A peut faire et à côté, il y a ce que B peut faire, mais que, en fait, c'est des recouvrements. Et donc, si A ne fait pas son travail, alors il y a une partie de son travail qui peut être faite par B, et une autre partie par C, etc. Donc, parce que sinon, si c'était un pavage, un pavé à côté de l'autre, on serait fichu. quelqu'un qui ne fait pas le boulot, puis c'est fini, c'est genre, plus personne ne peut le faire. Alors en vérité, ce qu'on est seul à pouvoir faire, c'est un certain ensemble de choses en même temps. Mais ces choses-là, chacune des choses séparément, peut être faite par différentes personnes.
Est-ce qu'on peut dire qu'Adam Arichon, quand il nommait les animaux, il était en train de figer une combinaison
de
figer il était en train de figer une combinaison, j'imagine, une combinaison d'éléments.
Il reconnaissait qu'il y avait là une combinaison des éléments constitutifs, et les éléments constitutifs, ce sont des lettres de l'alphabet.
Et nous, quand on fait les mitzvot,
on a un impact qui est défini par la mitzvah telle qu'elle a été donnée par Hachem. Hachem a dit, cette mitzvah-là, elle est en rapport avec le prix du beurre sur le marché. Voilà. Donc maintenant, si on ne fait pas cette mitzvah comme il faut, le prix du beurre sur le marché en question, il est un peu en suspension. Il faudra peut-être que quelqu'un d'autre, qui lui aussi peut s'occuper du prix du beurre sur le marché, fasse le job.
J'essaie de me demander si on peut vous dire que Adam, lui, en nommant, il suivait le potentiel, alors que nous, en faisant des mitzvot, on ouvre une potentialité possible, on ouvre des possibles.
La question qu'on peut se poser, c'est, ok, Adam Arichon, il savait comment on les appelait. En quoi c'est important de savoir comment on les appelait? Et si le tigre s'appelait lion, qu'est-ce que ça changerait?
Vous n'avez pas dit leur donner l'essence.
L'essence, oui, vous avez dit qu'il donnait l'essence.
Le?
Vous disiez qu'il donnait l'essence. Vous nous avez dit que c'était l'essence.
C'est pas qu'il la donne, il reconnaît l'essence de la chose. Et donc, il sait dire, choisit le nom. Il a choisi le nom. Imaginez qu'il a pris, il s'est aperçu que dans le lion, il y avait la vitamine L, je sais pas quoi, le machin I, et le truc O, et le machin chouette L. Voilà. Et donc, il s'est dit, il faut les mettre ensemble. Après, il les a trouvé une hiérarchie pour savoir qu'il faut mettre le L avant le N, etc. Donc, il l'a appelé lion. Je sais pas, j'y étais pas. C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais...
Et s'il a fait autrement, c'est un peu une erreur de la nature. Parce qu'il va nommer...
Oui, d'accord, il a... Ok, alors on va pas savoir, on va... Ça change quoi, le lion, il est dans la jungle, et...
Non,
etc. Pas... Et quoi, lui, il sait pas qu'il n'est pas appelé. Moi, quand je parle de lui, je l'appelle tigre.
Okay, si on nomme mal un enfant, on le verrait.
Oui, parce que vous êtes en relation avec l'enfant. Mais si vous n'êtes pas en relation avec l'enfant, et vous dites, ça va, je ne sais pas, imaginez une situation où quelqu'un, il sait qu'il a un enfant, il ne sait pas comment il s'appelle, il décide qu'il va l'appeler A. Bon. L'enfant, il est auprès de sa mère, et sa mère, elle l'a appelé B. Lui, quand il pense à lui, il pense à A. Il l'appelle A, donc, mais il sait bien, il parle de son enfant. Et il l'appelle A, mais l'enfant ne s'appelle pas A, il s'appelle B. Enfin, sa mère l'appelle B. Ça change quelque chose?
Ça fait la pagaille. Ça change parce que quand il va l'appeler.
Il ne l'appelle pas.
Quand il va penser qu'il est A. Il est
qui,
A.
Qui va penser?
Le père, celui que vous avez dit.
Oui, le père, il pense qu'il est A.
Il pense qu'il est A. C'est-à-dire qu'il a des éléments constitutifs qui s'appellent A. C'est-à-dire qu'il va bêler, qu'il va. Enfin, je ne sais pas, l'enfant, pas l'enfant, le pivot, il va. faire ceci, cela. Et en fait, la mère qui l'appelle B, elle a des éléments constitutifs différents.
Voilà.
L'enfant, c'est un bassinaire de la nature, il va être schizoïde.
L'enfant ne sait pas comment le père s'appelle.
Mais c'est qui cette chose-là? C'est quoi?
C'est quoi?
D'un côté, il y a des éléments constitutifs d'un côté, une certaine liste, un certain code. De l'autre côté, il y a un autre code. Chacun va dire ça et ça.
Il est en relation avec sa mère et sa mère, elle l'appelle B.
Oui, ça va marcher parce que c'est sa vraie constitution. Mais quand le père appelle A.
Non, c'est le père qui est le vrai.
Bon, ou c'est le vrai. À ce moment-là, il va pas répondre, ça va ficher la pagaille. C'est une erreur de
la. Il ne l'appelle pas.
Mais ça va pas répondre.
Alors, il est quoi?
Qu'est-ce qu'il savait? Soit avec son père.
C'est le père, il rêve, c'est tout. Il est.
Il appelle sa mère à tout. C'est-à-dire que vous, dans sa tête, son fils A, son fils, il n'appelle pas son fils A. C'est-à-dire, c'est un ensemble de codes, d'éléments. Mais c'est faux.
Il le dénature. Non,
mais qu'est-ce que ça change?
Il le dénature.
Mais
c'est pas grave.
Ah, si le père se contente de ça, va faire des mauvais, je sais pas, se fait dans le monde, des anges, je sais pas quoi. C'est comme peut-être quand on dit des mauvaises paroles ou des paroles, c'est pas émettre.
C'est une création. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, deux parents aient des projets, chacun un autre projet pour son enfant et l'enfant a envie avec ça? Des projets mentaux différents.
Mais comme, pardon, peut-être le nom, c'est le programme. Alors, d'un côté, il a un programme avec les éléments qui lui permettent de faire ce programme, et d'un autre côté, parce qu'il y a une illusion d'optique, il y a un programme, pas les éléments pour faire ce programme, donc ça va se casser la figure.
Pas forcément, s'il a deux prénoms.
Mais le père lui donne un prénom.
Il a deux prénoms.
En fait, le malheureux, avec un, on ne s'est pas débrouillé. Alors, si tu mets deux programmes, je ne sais pas. Hein. Peut-être, je ne sais pas.
Rav, un enfant qui a un prénom composé, ça pose un problème?
Un prénom composé, c'est un nouveau nom.
Ah, d'accord. Donc, on est un seul.
Il ne faut pas le dire aux grands-parents parce que.
Ce qui m'interpelle, c'est quand on change le nom d'une personne. Au départ, elle a eu un programme. Et en cours de route, on va lui changer ce nom.
Oui.
C'est-à-dire, on lui donne, on lui dit, bon, ça c'est faux, on laisse de côté. C'est comment ça marche à un niveau.
Ça, c'est parce que. Il y a des gens qui comprennent ces choses-là et qui ont décidé que ça avait un sens.
Oui.
Dans certains cas. D'ajouter un nom, de modifier un nom.
C'est fait par des gens, ça va
mieux. A priori.
Compétents.
Oui.
C'est une.
D'abord, l'idée même, elle vient de gens compétents. Par la suite, les gens qui changent de nom, ils ne sont pas toujours compétents. Mais le problème, c'est les parents qui nomment un enfant. Si on dit que c'est le programme de l'enfant, ça veut dire quoi? Les parents, quand ils nomment un enfant, ils ont droit à Kodesh?
Non, ils savent peut-être pas, mais ils sont peut-être que c'est pas vrai.
En fait, les parents ont droit à Kodesh.
Oui, c'est possible,
ça veut dire quoi, mal nommer un enfant, ça n'existe pas?
Ah non?
Bon, ça, je comprends pas ce que ça veut dire, mal nommer un enfant, ça n'existe pas.
On lui donne un prénom, un nom, et c'est ce nom-là qui devient son programme. Oui. Est-ce que les parents savent si cet enfant-là, il est capable de porter ce nom-là? Est-ce que tout ça ça se tient, quoi, quelque part, puisque c'est les parents, qu'est-ce qui se passe quand un enfant est adopté? On lui donne un autre nom. Enfin bon, c'est des questions tordues, quoi, et qui probablement n'ont pas, c'est pas obligé de prendre réponse. Bien que les parents soient inspirés quand ils donnent un nom, mais des fois ils donnent un nom, ils sont obligés de donner un nom à cause du grand-père machin ou de la tante. Les parents, ils n'ont pas du tout envie de donner ce nom-là. Est-ce que ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ce nom qu'ils lui ont donné alors? dire que les parents ils ne sont pas vraiment inspirés, mais les circonstances sont telles que dans cette famille-là, on donne le nom de celui-là, le nom de celui-là, et puis alors.
On ne les a pas forcés, si leur
inspiration. Si, il y a des endroits où on se les forcer, où il y a des familles dans lesquelles il est exclu de ne pas donner le nom de tonton machin qui est mort à la guerre, qui est au contraire un super sadique, etc. Il faut le donner. Mais les parents, ils n'ont peut-être pas du tout envie de le donner. Il y a des parents qui disent ben, nous, on choisit cet équivalent. Tous les enfants qui portent des noms de grands-parents qui venaient ou de l'Est ou de l'Afrique du Nord, qui ont des noms qu'on ne peut pas porter, ou difficilement, parce qu'il faut être dans un certain milieu pour porter ces noms-là, et alors on va les mettre, on va les donner ces noms-là, parce que les grands-parents, sinon, ils vont être furax ou déshériter les enfants, je ne sais pas. Compliqué. Déjà, quand on est deux à choisir un nom, c'est compliqué. Et si en plus on a des contraintes extérieures.
Parce que c'est pire, ceux qui ne sont pas dans la Torah, il y a des livres où ils choisissent, sur lesquels ils choisissent les prénoms. Alors, c'est selon les sonorités, selon.
Oui, non, mais ça, les gens, ils choisissent des prénoms selon la mode, etc. Selon. Puis, il y a des endroits où, quand un gadol décède, la génération des trois francs qui est juste après, ils portent tous ce nom. À la limite, à une classe d'âge, ils portent tout le nom.
Quand il y a des parents, pas dans la Torah, qui ne sont pas. Ils sont inspirés aussi pour donner des noms. Quoi.
Ça aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les parents qui ne comprennent rien du tout à rien et...
Alors l'enfant reçoit un programme, qui... il est obligé de faire un programme, il est obligé de s'adapter peut-être chacun.
Bon, si vous voulez, on dit qu'un enfant doit s'adapter, il faut bien qu'il s'adapte à sa famille.
Mmh. Mais ce n'est pas les maasintomim qui vont forger la personnalité et l'identité de la personne.
Oui, mais alors c'est quoi l'idée que le nom Admara elle dit Shema Kagarim, ça veut dire le nom il entraîne quelque chose.
Ouais, on veut lui mettre dans un chemin, mais après c'est en fonction de la nature.
Oui, non, bien sûr après, mais si vous l'avez mis sur un chemin dans un chemin qui lui convient pas du tout.
Mais est-ce qu'Hachem nous donne aussi les outils? Comme je pense, c'est moi que je ne sais pas. Est-ce que j'ai un nom, mais Hachem, ça va me conduire, comme vous dites, un programme. Mais est-ce que moi, je pensais qu'Hachem aussi, il m'avait mis les outils en moi pour assumer ce que mon nom veut que je fasse. Sinon, ce n'est pas logique, ce n'est pas juste.
C'est ça, le problème, c'est... Est-ce qu'Hachem, justement, est-ce que tout ça, ça se tient? Ça veut dire, Hachem, il sait bien qu'est-ce que les parents vont donner comme nom. Donc, à la limite, on pourrait imaginer qu'il va faire en sorte que l'enfant qui va porter ce nom-là, il soit en phase. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Bon, je pense que c'est des questions complètement ouvertes, quoi, et...
Du coup, ça veut dire quoi? Quand Adam, il donne des noms aux créatures, il crée un monde. Si on dit que quand on donne un nom, en fait, on s'influe sur la personne.
Alors, ces mondes-là, cette création de monde-là, il savait le faire, Adam. Mais créer des mondes de toutes pièces autrement que par ce biais-là, en plus, d'après ce que dit, c'est pas qu'il crée le monde. D'accord, il savait donner le nom qui était, ça veut dire que la chose, l'animal, ou la personne, elle rayonne en quelque sorte, pour quelqu'un qui est sensible à ce rayonnement, elle rayonne quelques lettres qui permettent de fabriquer un nom avec ces lettres.
Et créer des...
Mais c'est pas créer vraiment un monde.
Alors, créer des mondes avec la Torah.
Créer des mondes avec la Torah, ça veut dire que la Torah, c'est l'instrument avec lequel on crée des mondes. Si on sait la manipuler, elle permet de construire des mondes.
Qu'est-ce que ça veut dire savoir?
Oui, est-ce que c'est savoir?
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire savoir étudier, savoir, voilà, si on est, on se met au service, on se met à écouter ce que dit la Torah. Le problème, c'est souvent, quand on étudie quelque chose, on a déjà des idées préconçues, et on ne trouve que ce qu'on y a mis, quoi. Donc, c'est ça la grande difficulté, être capable d'être ouvert à ce que la Torah nous dit vraiment.
Une expérience Shabbat, dans un chiot, on étudiait une page de Gemara, et donc le rabbin a bien dit, il ne faut pas avoir de culture, il ne faut pas amener sa culture. C'est difficile, je veux dire, ça, je peux... J'ai trouvé à quel point ça peut être très riche et très frustrant pour avancer. Il faut raisonner avec ce que le texte dit, si j'ai compris, hein, sans avoir une mémoire, finalement. Est-ce que c'est ça?
Non, je ne pense pas que c'est de ne pas avoir une mémoire, mais c'est-à-dire d'écouter vraiment ce que dit le texte, et après, vous pouvez faire marcher votre mémoire, mais si vous venez dire, voilà, ce texte, il parle de ça, donc vous avez déjà une idée de ce que vous voulez trouver dans ce texte, alors vous allez le trouver. Mais dans ce cas-là, c'était inutile d'étudier, puisque vous saviez déjà.
Oui, enfin, c'est parce que je me suis aperçu que je croyais avoir compris des choses, mais peut-être c'est tout faux, tout ce que j'ai dit.
Voilà, ça va être là.